L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
Les élus du conseil départemental de la Sarthe se sont réunis vendredi 6 février pour débattre des orientations budgétaires du département. Un débat marqué par l'incertitude, car si cette année le département de la Sarthe bénéficie d'un fonds de sauvegarde de 7,2 millions d'euros de la part de l'État, il ne s'agit que d'une aide ponctuelle et les perspectives budgétaires nationales restent trop instables pour que les collectivités puissent concevoir un plan de dépenses pluriannuel en toute sérénité. C'est en tout cas les inquiétudes soulevées par les élus lors de ce débat. Cependant, le conseil départemental a bel et bien débattu de ses orientations budgétaires. Le social, une des compétences principales du département, reste prioritaire. Christophe Conil, chef de l'opposition au conseil départemental de la Sarthe, affirme la continuité de la ligne de l'opposition, une ligne qui revendique plusieurs mesures sociales. Christophe Conil répond au micro de Jean-Yves Breteau.
Vous avez dit, Christophe Conil, un budget, c'est faire des choix. Est-ce que les choix qui sont proposés dans le cadre de ce budget 2026 sont des choix qui satisfont finalement l'opposition, même si vous avez annoncé que vous ne ferez pas de nouvelles demandes cette année?
Alors, ce n'est pas qu'on ne fera pas de nouvelles demandes, c'est qu'on va être dans la continuité des propositions que l'on fait depuis le début du mandat. Par exemple, nous souhaitons que soit mis en place la tarification sociale dans la restauration scolaire des collèges, qui fait que l'on paye en fonction de ses revenus. Nous souhaitons qu'il y ait un coup d'accélérateur donné sur tous les travaux en matière de transition écologique. Nous souhaitons également que le secteur du logement soit plus appuyé. Donc ça nécessite de redistribuer de l'argent, c'est-à-dire de regarder là où on peut faire des économies pour pouvoir dépenser autrement. C'est là où on peut avoir des désaccords, en effet, avec la majorité départementale.
Un exemple, par exemple, pour illustrer ?
Eh bien, par exemple, on peut regarder la question des routes. Aujourd'hui, le département reste engagé sur un certain nombre de travaux routiers sur lesquels on peut s'interroger de leur utilité. Aller construire des nouvelles déviations à un moment où on essaie de préserver les espaces naturels, ce n'est pas des bonnes idées. Il y a des économies qui sont possibles.
Mais Christophe Conil le reconnaît, toute ambition de la part de la collectivité est mise à mal par l'instabilité budgétaire nationale, une situation qui exige une refondation du modèle de décentralisation.
Oui, c'est compliqué de construire un budget au niveau du département parce qu'on voit qu'on a des dépenses, notamment les dépenses sociales, qui augmentent très fortement, qu'à côté de cela, une partie de nos recettes ont disparu, ou l'État ne nous fournit pas l'argent nécessaire. C'est le problème de ce qu'on appelle l'autonomie financière. Il y a 20 ans, le conseil départemental avait la possibilité de lever l'impôt, de voter des impôts. Aujourd'hui, il n'a plus cette possibilité. Donc ça signifie qu'on a à peu près 70% de nos dépenses qui sont imposées par l'État, qui décide ou pas de nous donner les moyens qui vont avec. Cette année, apparemment, il y aurait des bonnes nouvelles. Il y en avait des mauvaises l'année dernière. Qu'est-ce qu'il en sera l'année prochaine? Comment on peut se projeter sans savoir l'argent dont on dispose?
Qu'est-ce que vous proposez justement par rapport à cette situation ?
Eh bien, moi je pense que le débat doit être porté par l'ensemble des départements au niveau français et d'obtenir du département, dans le cadre des débats qu'il souhaite organiser sur la décentralisation, que l'on arrive véritablement à refonder le modèle qui existe de relation entre les départements et l'État pour faire en sorte que l'on sache clairement ce que l'on a à faire, mais quels sont les moyens aussi qui nous sont attribués et que ces moyens ne soient pas systématiquement remis en cause d'une année sur l'autre.
C'est-à-dire revoir la loi de décentralisation, la loi NOTRe ?
Ben oui, il faut retravailler l'ensemble du dossier. Par exemple, en 2004, on nous a transféré de très nombreuses compétences sans nous donner l'argent qui va avec. Pour le conseil départemental, cela représente une dépense supplémentaire de plus d'un milliard d'euros depuis 2000.
On a envie de dire, pourtant, c'est sous la présidence de François Hollande que la loi NOTRe a été décidée. Est-ce que finalement, tous les contours n'avaient pas été bien appréciés ?
Le problème, ce n'est pas la loi NOTRe. Ça, c'est ce que le président Le Maire veut nous faire croire. Le vrai problème, c'est la décentralisation qui avait été initiée par Jean-Pierre Raffarin sous Jacques Chirac en 2004 et ensuite la suppression de l'autonomie fiscale des départements par Nicolas Sarkozy. Il a toujours tendance, notre président, à vouloir inverser l'ordre des responsabilités.
Alors c'est vrai qu'on attend beaucoup de l'État qui au demeurant doit faire face à cette dette colossale qui est celui de la nation. Il y a des budgets qui ont été votés récemment. Est-ce que ça va devenir compliqué finalement de mener à bien ces politiques nationales au regard des exigences qu'on demande pour réduire le déficit ?
Bah oui, je crois qu'aujourd'hui, on est un peu dans une forme d'impasse sur la façon dont on peut gérer les choses. Mais probablement que la loi de finances de l'État ne fait pas les bons choix. De l'argent, il y en a, il faut aller en chercher. J'expliquais ce matin, par exemple, les super profits routiers des autoroutes qui ont quand même déversé 16 milliards d'euros de dividendes depuis plusieurs années à leurs actionnaires. C'est de l'argent qui pourrait aussi servir demain à financer des travaux routiers dans les départements, par exemple.
Le président du département, Dominique Lemaire, a aussi précisé le champ d'intervention concernant les solidarités, disant qu'il fallait aussi aujourd'hui, au regard de ce qui se passait, s'intéresser aux causes et pas simplement aux conséquences.
Oui, mais il a raison. Se dire qu'aujourd'hui le budget de l'enfance est devenu le premier budget des départements avec 115 millions d'euros interroge. Il interroge sur l'état de notre société. Pourquoi avons-nous de plus en plus à prendre en charge des situations d'enfants maltraités ? Ça interroge sur le fonctionnement de notre société. Et de ce point de vue-là, je le rejoins.
Yves Calipe, qui est aussi l'adjoint en solidarité à la ville du Mans, a proposé que puisse se tenir au sein du département, puisque c'est sa compétence principale, les solidarités, l'action sociale, une réunion peut-être avec d'autres collectivités territoriales, d'autres associations, les CEAS, pour effectivement pouvoir ensemble aller porter auprès de l'État des préconisations, des propositions.
Oui, mais Yves a raison. C'est en s'unissant qu'on est plus fort. Il faut mettre de côté un peu les petites bisbilles, les différences politiques entre les collectivités. On est tous dans le même bateau, on est tous confrontés à les mêmes difficultés. Si aujourd'hui tous les élus de France, qu'ils soient de droite ou de gauche, portent la même ambition au niveau du département, eh bien je ne doute pas que l'État sera obligé de changer aussi un peu sa façon de faire et que nous ne serons plus la cinquième roue du carrosse.
Exemple d'entente entre droite et gauche. Christophe Conil salue le travail du département sur la culture. Véronique Rivron, présidente de la commission Vie associative, culture, sport, tourisme et patrimoine, a répondu à Jean-Yves Breteau sur l'importance de la culture et de la vie associative pour le vivre ensemble, le bien-être des habitants et le dynamisme économique du département.
Véronique Rivron, vous êtes présidente de la commission, hein, on le rappelle, Vie associative, culture, sport, patrimoine et tourisme. Vous connaissez bien la question de la culture sur le territoire parce que vous êtes présidente depuis de nombreuses années et vous êtes surtout très connue par les acteurs du territoire. Comment vous voyez évoluer justement la place de la culture dans les territoires ? On le voit, comment elle est impactée notamment par des baisses concernant les budgets de l'État. Vous l'avez dit, les collectivités ne peuvent pas suppléer ce qui n'est pas donné par exemple à la région, ce qui n'est pas donné par l'État. Comment vous voyez en projection la place de la culture sur les territoires ?
La place de la culture, d'abord on travaille avec les mairies, les communautés de communes, et on construit des programmes ensemble. On a quand même l'État qui est à nos côtés et qui nous aide avec l'éducation artistique et culturelle, avec le plan Pécan. On a le travail qu'on peut faire avec les collégiens, notamment avec des sorties scolaires vers la culture qui est proposée. Mais évidemment, ça reporte essentiellement sur les communes, communautés de communes maintenant. Mais on a un maillage avec des gens astucieux, et on peut faire. Ce que j'espère, c'est que nos acteurs vont pouvoir continuer à en vivre. Et je n'ai pas la réponse. Pour l'instant, on arrive à passer le cap avec des engagements des communes plus importantes. Je dirais par exemple, Bouloir, on a conventionné sur 5 ans, où la communauté de communes s'est vraiment engagée. On a des territoires comme le Mans qui s'engagent, mais vous avez aussi Sablé avec la communauté de communes. Bon, enfin, voilà. Donc, on se serre les coudes. Et puis on va essayer d'être intelligent, on va aussi mutualiser, on a aussi peut-être à faire une programmation qui pourrait se déplacer sur le territoire, donc qui coûte moins cher au départ de création. Donc il va falloir qu'on soit astucieux, inventif, mais on va combattre l'idée que la culture doit venir à la porte de chacun.
Plus de la moitié du budget devrait être consacré aux solidarités dans un contexte de grave tension au niveau de l'aide sociale à l'enfance. 2300 enfants et 1350 familles avec des difficultés éducatives étaient accompagnées par le département au 1er janvier 2025. Ce chantier devrait donc rester prioritaire cette année.
L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
Vous avez tenu à rappeler ce matin, lors du débat d'orientation budgétaire, que le département avait maintenu ses budgets sur ses compétences non obligatoires. Est-ce que vous faisiez référence à des décisions au niveau du territoire ?
Bah écoutez, nous, on a un territoire, la Sarthe, qui est un territoire un peu enfermé. On n'a pas la mer, on n'a pas la montagne, mais on a un dynamisme au niveau de la vie associative et on a un dynamisme au niveau de l'implication des citoyens. Et il nous semblait important, et le président souhaitait, alors vous savez qu'il a été député, président de la commission aux États-Unis, pas président, mais membre de la commission de culture, il a donc une sensibilité très importante. Et la vie associative, c'est un peu ce qui fait vivre nos territoires. Donc on ne voulait surtout pas avoir, si vous voulez, quelque chose qui ne puisse pas répondre à l'attente de nos concitoyens. Parce qu'au-delà de la vie associative, c'est aussi de l'économie. Il ne faut pas l'oublier. Et que donc 1 euro investi dans le territoire, c'est en général 7 euros qui est redistribué sur le territoire.
Et pourtant, le département est contraint aussi dans l'élaboration de son budget, on l'a entendu ce matin, de par tout d'abord les annonces ou les non-annonces faites par l'État, et puis parce qu'il y a une situation sociale qui vient impacter, je dirais, le volume budgétaire de la compétence essentielle du département, qui sont les solidarités. Vous auriez donc pu faire le choix de réduire largement cette contribution du département aux acteurs associatifs et de la vie culturelle sportive ?
Eh bien, aujourd'hui, on a effectivement une augmentation d'enfants qui ne vont pas bien, des familles qui ne vont pas bien. Et c'est la culture qui pourra les aider. La culture, c'est la lecture, par exemple. On fait des actions, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans les écoles, dans les maternelles, ou dans les bibliothèques et dans les médiathèques, pour que les jeunes aient l'appétence de la culture. Car ce qu'il faut aujourd'hui, c'est penser à notre jeunesse. Si on n'apporte pas un peu de, je dirais, de cadre, de formation et d'envie d'apprendre, c'est aussi ça ce qui est important. Pour diminuer le nombre de personnes qui sont en demande sociale parce qu'en détresse, eh bien, il faut leur apporter du soutien. Et le soutien, ça passe par la culture, l'apprentissage, la scolarité avec les collèges, et bien sûr, et ensuite pouvoir avoir un avenir. Et pour construire un avenir, il faut des bases. Vous savez, c'est comme la maison, il faut des fondations. Et si on a des bonnes fondations, on a beaucoup de chances pour s'en sortir.
Il existe un fonds départemental à la vie associative dont peuvent bénéficier les associations dans la culture, le sport et le tourisme. Est-ce que vous avez eu une augmentation cette année de par la situation économique des associations, une demande plus importante ?
On a eu plus de demandes l'année dernière, c'est 2% de plus, donc vous voyez. Mais je voudrais rappeler que nos concitoyens sont raisonnables. Ils savent très bien qu'on a 3500 milliards de dettes et qu'il faut que chacun aussi mette sa pierre à l'édifice pour qu'on sorte de cette ornière. Et donc, moi, je rencontre des associations qui essaient de trouver des solutions. Et donc, je n'ai pas forcément de demande en hausse, mais de sauvegarder ce qui est l'existant. Et moi, ce que je rappelle, et c'est pour ça qu'il faut un dialogue, c'est que toute personne qui demande un rendez-vous au département est reçue. On ne peut pas dire oui à tout le monde, mais on essaie de trouver des solutions, des orientations, parce que l'humain est au centre de mon engagement politique. Mon engagement politique, c'est de permettre aux gens d'aller mieux sur leur territoire, d'aller mieux dans leur vie de tous les jours. Et la culture, eh bien, ça fait partie, que ce soit la musique, le théâtre, la danse, mais les enseignements artistiques, eh bien, ça fait partie, justement, des pistes d'amélioration de notre vie du quotidien.
Au demeurant, vous avez baissé au département les subventions octroyées aux associations d'à peu près 10%. À un moment, c'était lié au fait qu'il y avait plus de demandes ou parce qu'il fallait aussi des contraintes budgétaires ?
C'est plus les contraintes budgétaires, parce que, en fait, les contraintes budgétaires sont liées justement à la prise en charge de l'enfance. Et il a fallu créer des maisons pour accueillir dans de meilleures conditions. On a une augmentation de 1300 enfants à 2300 enfants suivis. C'est beaucoup d'engagement. On a aussi un problème de recrutement pour les gens qui s'occupent de la petite enfance. C'est des métiers pas toujours faciles, des enfants pas toujours évidents. Et donc, ça demande un engagement. Et donc, donner des conditions de travail plus confortables à tous les professionnels de la petite enfance était aussi un enjeu. Et je pense qu'il fallait qu'on participe un peu aussi à cet effort-là.